to the ground. Charbonnet, a couple of blockers in front. He explodes in. Touchdown, UCLA. Bruins lead for the first time. Key block from John Gaines to spring Charbonnet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler draft. Jean-Michel Boujard et pour m'accompagner, Victor Roulier. Salut Victor, ça va ?
Et salut Jean-Michel, bah, ça allait bien jusqu'à ce que je vois que tu as un t-shirt des Cowboys. Alors du coup, ça va un peu moins bien, mais bon, on va faire avec. Je vois qu'on commence le premier épisode avec une trahison. Soit, c'est bien noté. Continuons dans ce rythme.
Voilà, exactement. Donc, bienvenue sur le premier épisode du podcast de Young Stars Observatory. Donc, on vous explique le format vite fait. Tous les 15 jours, on va se retrouver. On parlera de 4 joueurs, de 2 joueurs qu'on identifie comme top 50, c'est-à-dire des joueurs qui ont le potentiel pour être draftés dans le top 50 de la draft 2022. Et ensuite, on enchaînera sur ce qu'on appelle les sleepers, c'est-à-dire ne dormez pas sur eux, ce sont de bons joueurs. Ils seront sans doute draftés dans les tours suivants, tour 4, 5, 6, 7. Donc, on va commencer tout de suite avec le top 50. Notre premier top 50, c'est toi, Victor, qui va nous le présenter et tu commences fort, hein, fort.
Oui, Carson Strong, le quarterback de Nevada. Alors, c'est vrai qu'on a, connu une première semaine en NCAA, enfin, deuxième match pour certains et première semaine pour la plupart, où beaucoup de quarterbacks très attendus ont déçu, les Samuel, les Spencer Rattler, on a vu pas mal de quarterbacks pas au niveau. Carson Strong, lui, il n'a pas déçu. Parce qu'il joue pour Nevada, qui est une université assez, une université correcte, mais sans être une université très attendue. Et ils sont allés battre la défense de Cal, California, donc plutôt une belle performance. Et Carson Strong, qui est déjà attendu par certains au premier tour, voire très haut dans le premier tour, ben, il a prouvé qu'en effet, il fallait compter sur lui. Donc Carson Strong, c'est quoi ? C'est un quarterback qui aurait déjà pu être là il y a 15 ans. Parce qu'il n'est pas dans le moule de la double menace, du quarterback ultra mobile, etc., comme on peut le voir de plus en plus aujourd'hui. Non, lui, c'est plutôt à l'ancienne. Il a des belles dimensions physiques, des dimensions physiques comme on peut le voir sur un Roethlisberger, sur un Palmer ou autre. Il a une bonne précision. J'ai vu que certains remettaient en cause sa précision. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Parce que, par exemple, sur l'année dernière, dans ce qu'on appelle la précision ajustée par rapport aux différents schémas de jeu, il est à plus de 80%, ce qui est dans le top 10 du college football. Il a une puissance de bras phénoménale. Alors vraiment, il peut lancer partout sur le terrain. Une release, c'est-à-dire une sortie de balle et une mécanique qui est très rapide. Et ça, on sait, c'est de plus en plus important en NFL. On le voit, des joueurs comme Ben Roethlisberger, des joueurs qui ont une release très rapide, ça permet de éventuellement, si votre ligne prend un peu l'eau, de ne pas prendre l'eau avec. Et il a d'expérience, puisque bon, il a déjà 20 matchs de college football avant cette saison. Et donc, bon, 4 années titulaires, c'est plutôt très solide. On n'est pas sur un one-year wonder. Évidemment, je l'ai dit, principal défaut, la mobilité. Ce n'est pas le joueur qui va faire du est-ouest, droite-gauche. Je cours entre 5 joueurs, je gagne 10 yards avec mes pieds. Non, c'est clairement pas son jeu. Et ça, c'est pas tellement quelque chose qui va changer. Il n'a pas de physique pour ça, il n'a pas la vitesse pour ça. Par contre, là où il peut vraiment progresser, c'est dans la mobilité dans la poche. C'est-à-dire cette intelligence de jeu qui permet dans la poche d'éviter le sac, de se mettre dans la meilleure position possible pour lancer le ballon, dans la meilleure position possible pour avoir un angle de vue qui est assez grand. Donc, évidemment, un des maîtres du genre, c'était Drew Brees. On peut parler aussi, pour filer à comparaison de Ben Roethlisberger, mais il y en a bien d'autres. Et c'est vrai que Carson Strong, il y a un potentiel. Et pour finir, je donne une petite comparaison, parce que Jean-Michel aime bien les comparaisons. Et je vais comparer à Carson, mais pas Carson Wentz, Carson Palmer. Moi, je trouve qu'il y a un peu du côté de Carson Palmer dans le corps de Ben Roethlisberger, si je peux m'exprimer comme ça. Mais j'aime bien ce genre de joueur manager plus. Et je pense que dans une draft potentiellement faible en quarterback, il peut même devenir le premier quarterback choisi.
Ah oui, c'est possible, effectivement, ouais. Et comme tu dis, ça a l'air d'être un petit peu un quarterback à l'ancienne, quoi, un lanceur depuis la poche. C'est vrai que le manque de mobilité dans la NFL qu'on voit aujourd'hui, je sais pas si ça va pas être un petit peu rédhibitoire. Par exemple, moi j'avais remarqué qu'il a toujours pas marqué un seul touchdown à la course. Alors, je veux bien qu'il parte pas à la Lamar Jackson et qu'il fasse 25 ou 30 yards, mais même pas un truc près de la end zone ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc du coup, je me demandais si ça serait pas un petit peu rédhibitoire pour vraiment être pris très haut dans la draft.
Tom Brady, il a gagné le titre hein, cette année. Il n'est pas particulièrement mobile. Hein.
Non, c'est. Ouais, c'est certain, c'est un bon point. C'est un bon point, ouais. Donc du coup, on attend sur quoi, Carson Strong, cette année au niveau progression, c'est plus sur les lectures, par exemple?
Oui, c'est mobilité dans la poche. C'est en fait, c'est. Il a des receveurs. Il a une bonne ligne. On va dire qu'au niveau Group of Five, il a un bel effectif. Hein. Dans la plupart des matchs, ils seront favoris. Ce n'était pas forcément le cas contre California. Mais dans la plupart des matchs, ils sont favoris, donc il faut vraiment qu'ils se nourrissent de ça et qu'ils prouvent sa domination. On va en parler après, il a des très bonnes cibles, etc. Mais c'est éviter les sacs, c'est prouver que sous pression, il ne panique pas. Et là, c'est vrai que parfois, il est un peu jeune, il panique un peu là-dessus. Donc c'est vraiment ne pas paniquer, montrer que c'est un vrai manager plus, et pas seulement un joueur avec un gros bras... Et une bonne précision. J'attends sur voilà, la 3 et 6, quand il a un defensive tackle sur le dos, bah, il arrive à faire la petite passe qui permet de faire le first down. La passe de 50 yards, je sais qu'il peut la faire. Hein. C'est vraiment la petite passe en 3 et 6 qui permet qu'au lieu d'un 4 et 3, tu es en first down et ça fait toute la différence.
Ouais, effectivement. D'ailleurs, moi, ce qui me frappe quand je le regarde jouer, c'est vraiment son calme dans la poche. Il est extrêmement calme, je trouve. Même quand sa poche commence à s'éclater, qu'il y a les rushers qui arrivent, etc., ben il est là, tout droit, tranquille, il regarde, et puis il lance, alors que paf, il se fait percuter. Mais il reste vraiment très, très calme dans la poche. Donc, ouais, vraiment un gros potentiel, vraiment un gros, gros, gros joueur à suivre là, pour la draft. Hein. Donc, niveau projection, alors c'est sûr, il y en a encore la saison, après il y a le process, donc c'est vraiment un truc à l'instant T, quoi. Mais niveau projection, à l'heure d'aujourd'hui, tu le vois où?
Mais je le vois premier tour, difficile d'être plus précis parce que vraiment cette classe, à part peut-être Rattler que beaucoup, vraiment tout le monde à peu près le met au premier tour, c'est vraiment très compliqué à évaluer aujourd'hui. Les Howell, les Willis, d'autres, les Matt Corral par exemple, tous ces joueurs-là, ils peuvent finir top 3 de draft comme ils peuvent finir au second tour selon la saison qu'ils font. Donc difficile de projeter, mais... Je pense quand même qu'avec une grosse saison, s'il gagne la conférence, qu'il se montre dans un bowl, qu'il arrive à performer dans le process draft, je pense que oui, top 15, c'est largement atteignable.
Ok, ouais, ça me paraît bien aussi. Donc, Carson Strong, quarterback, Nevada, un joueur à suivre. Donc, on va passer à un deuxième joueur du top 50. Et là, du coup, on passe en défense. Je vais vous parler de Perrion Winfrey. C'est un defensive tackle. C'est un mouse costaud de 1m94 pour 138 kg. Il joue nose tackle dans une défense en 3-4 avec Oklahoma. C'est-à-dire qu'il est vraiment face au centre adverse. Donc, du coup, c'est un gros gabarit, un run stopper très efficace. Mais ce qu'il a vraiment pour lui, Perrion Winfrey, c'est que ce n'est pas juste un run stopper, c'est aussi quelqu'un qui arrive à mettre la pression sur le quarterback, quelqu'un qui arrive à plaquer les coureurs avant même qu'ils franchissent la ligne d'engagement. Et c'est ça qui fera toute sa force avec Oklahoma, bien entendu, mais aussi en vue de la draft par rapport à sa cote. Parce que, bien sûr, un defensive tackle qui arrive à mettre la pression, qui arrive à faire éclater la poche depuis l'intérieur, c'est très très recherché. Et ça, Perrion Winfrey, il l'a déjà. Donc à voir comment il va se développer en 2021. C'est un joueur qui est passé quand même par un junior collège pendant 2 ans dans l'Iowa. Le junior collège, en deux mots, c'est des cursus de 2 ans pour des joueurs qui, au niveau scolaire, au niveau académique, n'ont pas pu aller à l'université. Donc, il est allé dans un junior collège. Là, il a réussi à augmenter ses notes au niveau scolaire et surtout, il avait déjà montré toute sa faculté au niveau sportif, au niveau football. Donc, du coup, il a été recruté par une des meilleures universités du pays, Oklahoma. Il y a joué l'année dernière et là, il a montré tout son talent. Il a fait encore 6 plaquages pour perte. Il a fait des passes défendues. Tu regardes les matchs d'Oklahoma et puis tu le vois poursuivi un coureur, c'est-à-dire qu'il est dépassé par le coureur, il fait, je sais pas moi, 70 kilos de plus que le coureur, mais il y court après. Tu le vois chasser un quarterback. On l'a vu sur équipe spéciale, lever la main et contrer des field goals. C'est vraiment un joueur très très précieux. Et moi, je pense que surtout sa capacité à mettre la pression sur le quarterback sera déterminante pour sa cote en vue de la prochaine draft. En plus, à Oklahoma, il est quand même très très bien entouré cette année. C'est vrai que souvent on dit que les équipes de la conférence Big 12 sont pas vraiment réputées pour leur défense. Mais alors la défense d'Oklahoma cette année, ça promence vraiment vraiment du lourd parce que au milieu, il y a donc Perrion Winfrey, c'est lui la pépite. Mais sur les côtés, il a Isaiah Thomas, un defensive end très efficace qui a fait 12 plaquages pour perte l'année dernière. Il y a Nick Bonito, un linebacker extérieur qui manque peut-être un petit peu de gabarit pour la NFL, mais qui est extrêmement rapide. Ils ont de très bonnes linebackers juste derrière eux, que ce soit Samoa, que ce soit White, que ce soit Kelly. Donc du coup, Perrion Winfrey se retrouve en plus dans une grosse défense avec beaucoup de monde autour de lui. Donc il a vraiment de quoi faire du sale, du lourd. Donc du coup, c'est vraiment un joueur à suivre. Et s'il y a bien un defensive tackle dans cette QV, où il y a quand même de bons joueurs, style Haskell Garrett, style de Ohio State, pardon, ou Jordan Davis de Georgia, mais s'il y en a un qui peut être pris au premier tour, pour moi, pour l'instant, c'est Perrion Winfrey d'Oklahoma.
Ouais, alors je suis pas aussi haut que toi. Je te rejoins globalement, hein. Enfin, je veux dire explosif, puissant, polyvalent aussi. Parce que tu as dit, il joue en 3-4, mais vu son potentiel physique, tu peux le voir en 4-3, c'est pas choquant. À mon avis, il peut jouer en 0 tech, en 1 tech, en 3 tech, peut-être pas en 5, mais c'est un joueur que tu peux balader. Tu l'as dit, parcours JUCO, je trouve qu'il est, ça va être très important cette saison pour lui, parce qu'il était encore quand même très brut dans sa technique l'année dernière. Et il faut voir de la progression cette année. S'il progresse, je suis assez d'accord avec toi, le top 50 lui ouvre grand les bras. Mais de temps en temps, on le voit, il paraît un peu perdu quand il met ses mains. Il a une main en haut, une main en bas. Enfin, c'est pas comme ça qu'on agrippe le joueur. C'est des petits détails. Mais voilà, tu as déjà l'avantage physique. Si en plus, techniquement, tu arrives à composer, là, tu auras vraiment un joueur ultra complet. Donc, je pense que la saison va être très, très importante pour lui. Et peut-être un petit peu de production au niveau des sacs. Il en a fait 0,5 l'année dernière. Bon, il en a déjà fait, je crois, un demi hein, la première semaine, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, un demi, oui.
Ouais, bon, bah, voilà. Après, on ne demande pas à un obstacle de faire 10 sacs. Hein. Mais bon, un peu de production, montrer un peu qu'il peut déranger tout le monde, voilà. Je pense qu'il faut juste qu'il progresse, mais il part déjà de très haut.
Oui, voilà, exactement. Mais comme tu dis, en plus, voilà, il joue dans une 3-4, un obstacle avec Oklahoma, mais je pense que pour la NFL, ce sera sans doute différent. C'est un gros gabarit, il est imposant. Mais au niveau NFL, les mecs sont tellement énormes, je pense pas qu'il puisse jouer un obstacle dans une 3-4 en NFL. Donc comme tu dis...
Un peu différent pour Perrion Winfrey.
Voilà, voilà. Et vu son combo qualité-défaut, je pense que justement dans une 43, au contraire, je le vois plus dans ce secteur-là, moi, aux côtés de quelqu'un de peut-être encore plus imposant. Et du coup, comme tu dis, pour jouer, bon, alors un technique, il pourra le faire aussi, mais je le verrais bien en 3 techniques aussi, pour aller mettre la pression.
C'est d'accord avec toi.
Bon, ben écoutez, on a fait le tour là sur nos deux joueurs du top 50 pour cette semaine. On va passer aux Sleepers. Tons of time. Gonna take a shot. Down the middle. Donc les Sleepers, ce sont des joueurs, de bons joueurs qu'on connaît à l'université, mais qui a priori leur manque toujours un petit quelque chose pour, à l'instant T, être drafté au premier ou au deuxième tour. Donc, qui sont ce type de joueurs, ces joueurs précieux qu'on retrouve dans tous les 53 des 32 équipes. Aujourd'hui, on va commencer avec un receveur et tu restes dans la même université que le quarterback tout à l'heure.
Exactement, je vais vous parler de Romeo Doubs. Alors bon, il faut savoir qu'il y a sleeper et sleeper. C'est-à-dire que autant le tien, je ne spoil rien, mais c'est un vrai sleeper dans le sens où c'est un joueur plutôt de sixième tour ou au cinquième, sixième tour, tu me diras où tu le projettes. Romeo Doubs, ça peut monter très vite. Et peut-être que ça ne sera plus un sleeper dans 2 mois. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un joueur qui est limité un peu par lui et beaucoup par le coaching et la façon dont joue son université. C'est ça que je vais expliquer, parce que ce n'est pas toujours que des joueurs qui sont limités, mais parfois, ils sont des projections à cause des systèmes. Donc, là encore, joueur expérimenté, grosse progression. Il a fait milliard l'année dernière en 9 matchs, je crois, de souvenir. Gros, évidemment, complémentarité avec Carson Strong, vu qu'ils jouent ensemble depuis un moment maintenant. Explosif, menace profonde. Les gardes après réception, alors ça, il en fait un paquet, hein, parce que vraiment, c'est un joueur très rapide, c'est un joueur très instinctif là-dessus. Mais justement, à Nevada, ils ont tendance à trop l'utiliser qu'en course profonde. Et du coup, les rares fois où il est utilisé sur des tracés courts ou des tracés intermédiaires, ben, il y a un peu de doute aujourd'hui. Il faudrait plus de volume pour se rendre vraiment compte de ce qu'il est capable de faire. Parce qu'aujourd'hui, il n'arrive pas forcément à créer autant de séparation par ses mouvements, par ses cuts, qu'il ne peut le créer en vitesse pure sur un tracé long. Et il manque aussi un peu de gabarit pour les réceptions un peu contestées. Le gabarit, ça peut se prendre, selon moi. Mais c'est vrai que là où j'aurais besoin de voir plus, et on l'a vu un peu contre Cal, et c'était assez rassurant, c'est voilà, des réceptions de 60 yards, tu sais les faire. Des screens, tu sais les faire, parce que les yards après réception, c'est ton truc, t'es rapide, t'es génial. Prouve-moi que sur une séance, sur des tracés vraiment basiques, tu peux, juste avec ton premier pas, faire une séparation. Et c'est ça qui n'est pas encore exactement sûr chez lui. Pour vous dire à quel point il est utilisé, 33% de ses yards sont sur des tracés de plus de 25 yards. Sont sur des lancers de plus de 25 yards dans les airs. Dans les airs. Donc, ça veut vraiment dire qu'il est cherché dans la profondeur, ce qui marche dans une conférence modeste. Hein, on ne va pas se mentir, il y a un moment où on ne parle pas du Power 5. Mais lorsqu'il faut affronter des équipes un peu plus solides défensivement, là, il va falloir qu'il montre, voilà, toujours, je reprends un peu mon exemple, que sur la 3 et 6, il va pouvoir faire sa réception de 8 yards et gagner le first down. Donc, je pense que Strong et Daubs peuvent vraiment se tirer vers le haut. S'ils continuent comme ils ont fait contre Cal et qu'ils montrent qu'ils progressent encore cette saison, les deux peuvent en profiter. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est un quatrième tour. Mais je pense qu'il peut monter. Alors, il ne sera peut-être pas au premier tour, mais il peut monter au second si vraiment tout rigole cette année.
Oui, exactement. Et comme tu l'as dit, moi, c'est ce que j'avais remarqué aussi. Quoi. C'est vraiment un joueur très costaud. Il est très, très bon pour les yards après la réception. Et puis, comme tu dis, il est beaucoup utilisé dans la profondeur, mais il faut dire qu'il a un quarterback dont tu as parlé tout à l'heure, qui lance souvent dans la profondeur. Et c'est quand même un joueur qui au lycée faisait beaucoup d'athlétisme aussi, donc alors c'est pas le plus rapide, mais par contre voilà, il est vraiment très athlétique, donc il sait prendre, attaquer la profondeur, il sait s'élever dans les airs, il sait attraper les ballons dans les caches contestées, et effectivement comme tu dis aujourd'hui on en parle dans la rubrique sleeper, mais si ça se trouve, plus on va se rapprocher de la draft, et plus il va être plutôt considéré comme un deuxième ou troisième tour de... Donc Romeo Doubs, ouais, effectivement, c'est vraiment un joueur à suivre, surtout avec cette équipe de Nevada, puisqu'il y a vraiment un trio exceptionnel en attaque. Il y a le quarterback Carson Strong, il y a le receveur Romeo Doubs, il y a aussi un autre receveur, Elijah Cooks, mais il y a aussi surtout le tight end, Cole Turner. Donc du coup, c'est vraiment une attaque de feu, donc ils vont vraiment être à suivre. Alors après, comme tu dis, voilà, c'est pas la meilleure des conférences. En jetant un œil vite au calendrier, bon, il rencontre quand même quelques équipes correctes, mais c'est rien de fou. Il y a Kansas State, il y a Boise State... Fresno State, ouais, San Jose State, il y aura des beaux matchs, mais voilà, c'est sûr que malheureusement, on ne le verra pas contre ne serait-ce que Florida ou Ole Miss ou vraiment des équipes un peu plus costauds comme Iowa ou Wisconsin. Mais c'est quand même un joueur vraiment à suivre, quoi, qui a beaucoup de qualité. Et puis le dernier point que je voulais ajouter, c'est que tu vois, tu parles des limites, et tu fais bien de parler des limites, mais depuis tout à l'heure, on parle des limites, même de Strong, même de Winfrey, mais de toute façon, ce sont des joueurs universitaires, donc ils ont tous encore des choses à travailler, ils ont encore tous des choses à prouver. Donc là, on parle vraiment de qualité déjà avérée, mais aussi de potentiel. Et évidemment, on va voir comment ça se joue pour cette saison 2021.
Mais tu vois, dans le genre de joueurs qui ont des profils un peu bâtards, si je peux me permettre ce terme, Il n'est pas aussi caricatural parce qu'il n'est pas aussi lourd, mais il est un peu comme Laviska Shenault. C'est-à-dire, je vois très bien pourquoi les gens vont l'aimer et je vois aussi très bien pourquoi certaines personnes vont être sceptiques sur lui. C'est des joueurs qui divisent par nature dans leur style de jeu et il ne sera pas pour toutes les attaques. Mais voilà. S'il est dans une attaque qui trouve comment utiliser, il peut faire mal.
C'est ça, tu veux dire qu'en fait, sa position à la draft, elle va quand même beaucoup dépendre du système utilisé par l'attaque de l'équipe qui va le choisir.
Exactement. Exactement, je pense que selon les besoins, s'il y a une équipe qui a un système qui correspond et qu'on a besoin, bah là, il va être pris. Après, à voir quels seront les besoins des équipes à ce moment-là.
Ok, Romeo Doubs, receveur Nevada, joueur à suivre. Donc du coup, moi, je vais enchaîner avec mon sleeper. Et là aussi, je retourne en défense. Et donc, je vais vous parler d'un linebacker. Il s'appelle Darian Beavers. Il joue à Cincinnati. Alors, pourquoi j'aime bien ce joueur, moi? C'est parce que déjà, il a un beau gabarit. Il fait 1m90, il fait 110 kg. Mais en même temps, c'est un joueur plutôt rapide. Il faut savoir qu'au lycée, il était safety. Il a été recruté comme safety. Et donc, c'est un joueur qui a beaucoup de rapidité d'intervention. Et c'est un joueur qui sait un petit peu tout faire. C'est-à-dire qu'il est capable de plaquer des coureurs, il est capable d'aller en couverture, il est capable de blitzer pour mettre la pression sur le quarterback. C'est vraiment un linebacker moderne. Dans la défense de Cincinnati, c'est vrai que tous les regards se portent sur le pass rusher Myjai Sanders ou sur le cornerback Ahmad Sauce Gardner. Mais Darian Beavers, le deuxième rideau, il est vraiment très très précieux. Il fait beaucoup de choses différentes dans l'équipe. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup. Alors, déjà pour Cincinnati, pour la saison qu'ils vont faire, on a beaucoup d'espoir pour cette fac cette année. Mais également si je me projette sur la NFL. Parce que souvent, on voit qu'il n'y a que deux linebackers d'alignés en NFL. Et donc, c'est très bien d'avoir des linebackers qui savent faire beaucoup de choses. Des joueurs intelligents et qui peuvent faire, voilà, défendre si c'est appelé un jeu de course, si le jeu appelé c'est une passe. Si... Et donc, du coup, voilà, sa polyvalence fait qu'il est très précieux. Après, je le décris là comme un monstre. Il l'est quelque part, mais ce n'est pas non plus Micah Parsons des Cowboys. Le truc principal qui pour moi joue contre lui déjà, c'est son âge. Alors, j'ai un peu check sur Google, j'ai pas trouvé sa date de naissance, peut-être vous la trouverez vous. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il a déjà fait 2 saisons à Connecticut et que là, il entame sa 3e saison avec Cincinnati. Donc du coup, il doit avoir 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que la NFL, d'ailleurs je comprends pas toujours pourquoi, préfère les joueurs beaucoup plus jeunes. Ils estiment qu'il y aura une marge de progression plus importante. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais son âge joue un petit peu contre lui. Après, la conférence, c'est du Group of Five, là aussi, c'est-à-dire derrière les 5 universités majeures. Après, Cincinnati, ça fait quand même 1 an, 2 ans qu'ils nous montrent qu'ils font partie des meilleures universités du pays. Ils sont tout le temps dans le top 25. L'année dernière, ils étaient même candidats aux playoffs. Ils ont fait un bowl majeur contre Georgia. Dans cette conférence, il y a d'autres très bonnes universités. On va citer ne serait-ce que Central Florida, par exemple. Donc du coup, je ne suis pas certain que ce soit retenu contre lui. Après, à voir cette saison, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que c'est un joueur qui sait tout bien faire, mais est-ce qu'il a vraiment une qualité supérieure qui fait dire que là, voilà, on va le prendre parce que dans ce domaine-là, il est élite? C'est la question que je me pose pour l'instant, et c'est pourquoi je le classe dans les sleepers. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Victor?
Déjà, j'en pense que si vous pouvez regarder Cincinnati le plus possible, parce que... Ça a beau être officiellement une équipe du Group of Five, alors peut-être pas pour longtemps, hein, apparemment il y a des rumeurs de rejoindre la Pac-12, mais clairement, ils ont un effectif qui est digne des très bonnes équipes du Power Five. Non, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est typiquement ce type de linebacker qui aura une place dans un roster, en fait. Qui aura forcément une place dans un roster. Alors, c'est vrai que le côté moyen plus partout et excellent nulle part fait que est-ce qu'il deviendra titulaire, c'est pas sûr. Et comme tu l'as dit, il a quand même déjà 4 saisons dans les pads, donc on connaît à peu près son plancher et son plafond. Mais c'est quelqu'un d'assez sûr et c'est un bon remplaçant. Et au 6e tour, si tu peux avoir un mec dont le plancher, c'est d'être un bon remplaçant, t'y vas, en fait. Parce qu'au 6e tour, de toute façon, tu as 75% de chance d'avoir un mec qui sera même plus là dans 1 an et demi ou 2 ans. Donc, oui, je pense que c'est la définition même du sleeper, c'est-à-dire il ne sera pas hype au point de partir dans les 3-4 premiers tours, j'y crois pas. mais par contre, il sera suffisamment hype pour être drafté.
Ouais, surtout qu'il ne faut pas négliger l'apport en équipe spéciale. Et je pense que c'est un joueur qui a vraiment le profil aussi pour contribuer en équipe spéciale. Que
ce soit... quand tu as des capacités physiques comme ça, quand tu es aussi rapide pour ton poids, etc., oui, tu trouveras ta place, ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
Donc, un joueur de rotation sur le poste de linebacker, qui en plus peut contribuer en équipe spéciale, ouais, pour moi, c'est un bon sleeper.
Ouais, je suis d'accord. J'en
Ouais.
profite juste pour dire que cette année, et ce n'est pas toujours le cas les années d'avant, on a une belle classe de linebackers. Il va falloir l'étudier toute l'année parce qu'on a des très beaux noms. Alors, on a les Christian Harris et Brandon Smith et Toto et compagnie. Mais même dans la profondeur, je trouve, on a quand même une sacrée profondeur au poste de linebacker qu'on n'avait pas ces dernières années. Donc, je pense que ça va être vraiment un poste qu'il va falloir regarder assez attentivement.
Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, je vous renvoie sur l'article qui a été publié hier sur le poste de linebacker où vous retrouverez les favoris pour le top 50, vous retrouverez les outsiders, vous retrouverez aussi des joueurs à suivre, dont Dyan Beavers donc. Et effectivement, la liste de linebacker pour la draft 2022 est assez impressionnante. Et il faut quand même savoir que les linebackers, voilà, non seulement c'est une position sur le terrain, mais c'est aussi le gabarit parfait avec, on va dire, les safeties pour jouer sur équipe spéciale. Donc du coup, c'est des joueurs qui sont toujours très prisé lors de la draft, ne serait-ce que le samedi. Le samedi, c'est-à-dire les tours 4, 5, 6 et 7. Donc oui, cette classe-là, elle va faire du bien l'année prochaine aux équipes NFL.
Je pense qu'on est totalement d'accord là-dessus et on a déjà, je pense que c'est un beau panel sur ces quatre joueurs parce qu'on a vraiment un joueur qui peut faire top 15 parce que quarterback et ensuite on a un petit panaché de tout ce qu'on va pouvoir voir dans la draft du premier au sixième tour.
Donc, premier épisode, Carson Strong, le quarterback de Nevada, Perrion Winfrey, le defensive tackle d'Oklahoma, Romeo Doubs, le receveur de Nevada aussi, et enfin, Dyan Beavers, le linebacker de Cincinnati. Donc, du coup, Victor, on va donner rendez-vous à nos auditeurs tous les 15 jours cette année pour leur parler à chaque fois de 4 joueurs.
Et ça, rendez-vous au prochain épisode.
Allez, ben merci, bonne journée à tout le monde et à
À
bientôt.
bientôt. Charbonnet.